municipal du 25 avril 2014. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Très bien. Donc, approuvé à l'unanimité. Premier point pour information, les décisions de droit de préemption urbain. Donc dans les procédures d'urbanisme et de droit du sol, à chaque fois qu'il y a un permis de construire notamment, il y a une déclaration d'intention d'aliéné qui permet en fait à la commune d'exprimer ou pas sa volonté de préempter. Et on doit donc vous faire part de ce qui a été fait au niveau de la commune. Bien. Donc il y a eu quatre en fait déclarations d'intention d'aliéné qui nous sont arrivées. Et dans tous les cas, nous avons choisi de ne pas préempter. Donc sont concernés en fait les consorts eau froid qui sont fait une demande au lieu dit sous le parc après la rue de l'Oise. Les consorts eau froid toujours pour une demande 11 rue du Port. Les moulins de Tijules qui ont fait une demande au 14 rue de la Gare. Et les consorts d'Hirson qui ont fait une demande, 5 rue de Verdun. Voilà ce qui a été fait depuis la dernière remontant depuis l'élection, depuis le dernier conseil, au 12 mai 2014. Voilà, à titre d'information. Oui.
Ce sont des demandes pour des ventes.
Pas systématiquement, pour des demandes pour des ventes, oui, notamment. Hein? Oui. Oui, permis de construire. Oui, non, mais vous avez raison. C'est des demandes pour des ventes. Tout à fait. Oui, vous avez raison. Tout à fait. Point suivant. Désignation des délégués à l'association intermédiaire. Donc l'association intermédiaire dans ses statuts, il y a à son conseil d'administration ou au comité directeur de l'association intermédiaire, 3 représentants du conseil municipal de Verberie qui doivent donc être désignés pour la durée de leur mandat de conseiller municipal. Pour information, il y avait d'ailleurs un représentant à désigner par le Centre communal d'action sociale qui était désigné, et puis ensuite, dans ce comité directeur, plusieurs membres élus par l'Assemblée générale. Donc pour les 3 représentants du conseil municipal de Verberie, qui se présente ? D'accord. Donc, Annick Campier, Patrick Stéphen, Odile Arnoux. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, Annie Carpentier, Patrick Stéphen et Odile Arnoux représenteront le conseil municipal au comité directeur de l'association intermédiaire. Avant de passer au point suivant, j'en profite pour faire passer le cahier tout en allant pour signer le compte-rendu qui vient d'être approuvé, votre présence. Et pour n'ayez pas peur de tourner la page qui est avant, un certain nombre de conseillers municipaux n'ont pas signé le précédent procès, le précédent compte-rendu. Donc, point suivant, renouvellement de la commission communale des impôts directs. Donc cette commission communale des impôts directs, elle est constituée au final de 16 membres, 8 titulaires et 8 suppléants. Ils ne sont pas désignés par le conseil municipal. Le conseil municipal, en fait, propose 32 membres, soit le double, donc 16 titulaires, 16 suppléants, et ce sont les services fiscaux, le directeur départemental, je crois, des services fiscaux, qui désigne les 8 titulaires et les 8 suppléants parmi les noms que nous proposons. Donc, au sein de cette commission, dont le travail consiste notamment à choisir, alors pour moi ce sera une première, cette commission, mais consiste à choisir des locaux de référence et aussi pour les constructions nouvelles, je crois, regarder dans quelle catégorie elles sont, ce qui joue pour le niveau des impôts locaux. Voilà. Donc dans cette commission, on doit désigner un certain nombre de personnes pour la taxe d'habitation, qui paie la taxe d'habitation, un certain nombre de personnes qui paient le foncier bâti, de même le foncier non bâti et les commerçants artisans. Et parmi toutes ces personnes, il doit y avoir deux personnes extérieures à la commune, un parmi les tutélaires, un parmi les suppléants, mais qui paient bien sûr des impôts sur verberie. Voilà. Et comme nous avons plus de 100 hectares de bois sur la commune, on doit aussi avoir des représentants, des propriétaires de parcelles de bois dans notre commission. Donc je vais vous citer la liste des gens que nous proposons aux services fiscaux. Donc pour la taxe d'habitation, Élise Fauquemberg, Evelyne Ventul, Lucie Lafitte, Jean-Marie Renaud, ça ce sont les titulaires. Pour les suppléants, Bernard Flandre, Charlie Hay, Isabelle Kozik, Nicolas Galzinski. Pour le foncier bâti, Michel Cuvelier, titulaire donc là, Bernard Duteil, Sylvain Ancelin, Jean-Jacques Lecâtre. Pour les membres suppléants, Nathalie Bourson, Jean-Michel Sadé, Yvan Fernandez, Franck Monneveux. Pour le foncier non bâti, Philippe Boursier, Michel Alphonse, Micheline Fourdrin-Delbar, Bernard Crinon. Ça, c'était les titulaires pour le foncier non bâti. Les membres suppléants, Pascal Amour, Eliane Jarraud, Patrick Châtelain, Georges Co. Pour les commerçants artisans, membres titulaires Pascal Rossignol, Jean-Marie Martin, Éric Co, Véronique Boucher, et pour les membres suppléants, Laurent Fontaine, Pascal Bourson, Valérie Demeurand, Christophe Janot. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc ce sont donc les membres que je viens de proposer, enfin de citer, pardon, qui seront proposés aux services fiscaux par la commune. Autre point. Nouveau point de l'ordre du jour, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Donc je vais laisser la parole à Laurent Baumler. Juste en introduction, donc, la municipalité précédente avait fait un travail dans un contexte qui était le contexte de l'époque. Depuis, il y a eu un nouvel gouvernement. Ils ont choisi de proposer un certain nombre d'assouplissements. Il était donc logique de regarder si on voulait profiter de ces assouplissements. C'est ce que nous avons fait. Donc maintenant, je te laisse la parole à Laurent Baumler.
Écoutez, comme vient de dire Michel, en effet, le 20 janvier de cette année, donc, il y avait l'ancienne municipalité qui avait voté au conseil municipal les nouveaux rythmes sur l'ancienne réforme, en fait. Depuis, il y a eu tous les événements que l'on connaît, avec le changement de gouvernement, etc., et l'arrivée de Benoît Hamon, donc, au ministère de l'Éducation nationale, et puis qui a donc promis un assouplissement. Bon. Cet assouplissement, il avait deux possibilités. Soit on concentrait les activités périscolaires sur une demi-journée, soit on pouvait réduire la journée scolaire et reporter ce temps donc sur un petit peu plus d'une semaine, mais uniquement sur les vacances de juillet. Sur le deuxième point, on considère que c'est pas notre rôle donc de jouer avec les vacances. Donc ça, c'est plutôt du rôle du ministère de l'Éducation. Donc on a fait le choix de... Enfin, on a préféré opter pour la première solution qui est de concentrer les activités périscolaires sur une demi-journée. La demi-journée, donc il y a eu des consultations, on est allé voir notamment Madame Barde au collège pour cette histoire de cantine, les intervenants donc, qui sont Franck Renou pour la cantine aussi et puis pour l'intervenant de sport, Marie-Françoise Ducrot. On a eu une première réunion donc, de la commission d'éducation finance. On est rentré en contact avec les directrices et donc on a demandé des conseils d'école extraordinaires pour pouvoir parler de tout ça. Et donc les trois conseils ont voté pour donc l'assouplissement, donc à 97% le fait de rassembler ces activités sur une demi-journée. Donc là, c'est ce que je voulais faire circuler, si vous voulez, restez attentif quand même, mais si vous voulez jeter un œil, il faut que, absolument que vendredi, donc je crois que nous serons le 6, il faut qu'il y ait donc un dossier qui soit présenté à l'inspecteur de l'académie qui décide, c'est pas encore officiel, il y a ce soir donc le vote au conseil municipal, et c'est donc l'inspecteur sous couvert du recteur qui valide ou pas le fait de concentrer les activités sur une demi-journée. Donc tout est expliqué là-dedans, pourquoi on a choisi ça, parce que sur Verdorie il y a beaucoup de contraintes au niveau des locaux. Donc il faut tenir compte du transport des enfants. Il y a surtout ce problème de cantine qui est récurrent malheureusement depuis des années et que là on est un petit peu à saturation. Et donc il faut mener les enfants au collège, à transport des bus, etc. Donc c'est vrai. C'est vrai que pour nous, il serait quand même beaucoup plus facile de rassembler et puis de proposer quelque chose aux enfants au moins sur une demi-journée. Alors qu'avant, ça n'était pas possible. Quand c'était trois quarts d'heure par jour, c'était impossible de trouver des intervenants extérieurs. Donc voilà. Donc je vous laisse découvrir et puis on attend donc la décision de l'inspecteur, à savoir que si le 18 juin, je crois, si ma mémoire est bonne, si nous n'avons pas de réponse de l'inspection, c'est considéré comme accepté. Et donc la prochaine étape, c'est très vite, je pense qu'on va faire ça la semaine prochaine si possible, c'est de réunir les parents élus, ils sont déjà prévenus, les parents d'élèves élus, pardon, les directrices et tous les intervenants pour essayer maintenant de travailler, même si on a déjà avancé sur le sujet, mais de travailler les activités que l'on doit proposer aux enfants le vendredi après-midi.
Alors, on propose au vote, donc au conseil municipal, cette possibilité de regrouper, en fait, sur 3 heures le vendredi après-midi. Je vais vous lire la question qui est posée tout à l'heure. Donc, de participer à cette expérimentation, cette demande d'expérimentation.
Je l'ai, la question.
Sachant que si, là, encore une fois, il faut que... Les conseils d'école valident, donc Laurent Baumler vous a expliqué que c'était le cas, ils avaient tous les trois validé. Il faut que le conseil municipal valide, et derrière ça, c'est l'inspection d'académie qui décide. Donc il faut attendre le retour de l'inspection d'académie. Si l'inspection d'académie décidait de ne pas accepter notre proposition, eh bien nous reviendrions aux horaires qui avaient été décidés par la précédente municipalité. Voilà comment ça va se passer. Alors pour la date, je ne sais plus si c'est le 12 ou le 18 juin, mais c'est très rapide.
18.
D'accord. Donc la question qui est posée, ça n'empêche pas que le document continue à circuler. Êtes-vous pour une demande d'expérimentation sur l'organisation du temps scolaire? Alors c'est le décret du 7 mai 2014. À savoir concentrer les activités périscolaires sur le vendredi après-midi. Sachant que pour cette demande d'expérimentation, on peut la faire pour 1, 2 ou 3 ans, et que dans notre contexte, on préfère la faire pour 1 an. Parce que d'ailleurs, l'an prochain, il y aura la mise en service de la nouvelle cantine. Donc voilà, les cartes sont rebattues et il faudra quelque part revoir un peu tout ça. Voilà, donc la question c'est, je la répète une nouvelle fois, êtes-vous pour une demande d'expérimentation, donc d'un an, sur l'organisation du temps scolaire, à savoir concentrer les activités périscolaires sur le vendredi après-midi. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, nous sommes, le conseil municipal, et pour cette demande d'expérimentation. Point suivant de l'ordre du jour, location d'un logement communal à l'école du centre. Donc, pour que tout le monde soit bien informé, nous avons un certain nombre de logements qui se situent à l'étage au-dessus de l'école primaire du centre. Un de ces logements s'est libéré. Il comprend un salon avec coin cuisine, une chambre avec salle d'eau et des WC à l'extérieur sur le palier. C'est donc des conditions quand même un peu particulières. Il est d'une superficie de 30 mètres carrés et il y a de plus évidemment des contraintes puisque ce logement est au-dessus de l'école et qu'il ne faut pas qu'il y ait de chahut pendant les heures scolaires. Donc bon voilà, il y a un certain nombre de contraintes auxquelles est soumis le locataire. Donc, j'ai été saisi d'une demande de location pour ce logement communal qui a été déposée par M. Éric Grimbert, domicilié à Verberie, 33 rue Jean Jaurès. Je propose donc à l'Assemblée de louer ce logement à M. Grimbert-Éric à compter du 1er juillet 2014 pour un loyer mensuel révisable de 196 euros. Alors c'est un loyer, évidemment, charges non comprises. Voilà. Alors ce loyer, qui est faible, mais c'est compte tenu effectivement de l'ensemble des contraintes générées à la fois par le logement, avec des WC à l'extérieur, qui est petit, mais aussi par les conditions de vie qu'on doit adopter dans cette chambre. Donc je vous demande, je propose à l'Assemblée aussi de m'autoriser à signer la convention d'occupation précaire à venir. Voilà. Qui...
C'est pas une chambre, c'est un logement.
C'est un logement, oui. Qui est con...
Oui. Je voudrais qu'il y ait des contraintes quand même par rapport à l'école.
Oui, tout à fait.
Il ne peut pas laisser sa voiture, s'il n'y en a une, il faut qu'il la sorte pendant les heures scolaires.
On est...
Ouais,
tout à fait. On est voilà. Alors j'avais effectivement résumé ça, mais oui, oui, il y a bien toutes les contraintes que mentionne M. Fleury. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Donc écoutez, ce logement sera loué à M. Éric Grimbert. Et je signerai donc la convention d'occupation précaire à venir. Point suivant, tarif de location des salles. Donc annuellement, on revoit le tarif de location des salles municipales. Donc là, c'est pour l'année 2015. Et donc ce sont des tarifs qui seront applicables au 1er janvier 2015. Je cède la parole à Patrick Stephen, adjoint aux finances.
On a donc revu hier en commission finances l'ensemble des tarifications de location. Vous avez tous par devant vous les tarifs qui étaient en 2014 et ceux qui vont être appliqués au 1er janvier 2015. Donc l'évolution, elle varie suivant les salles, entre 2 et 5% suivant les salles. Donc pour la grande salle du château, particulier et entreprise de la commune, on est à 550 euros. Particulier extérieur à la commune, 1650 euros. Association et entreprise extérieure, 1650 euros. Donc là, on a fait évoluer très fortement le montant dans la mesure où on considère qu'une entreprise extérieure doit au moins pouvoir payer le même prix qu'un particulier d'extérieur. Enfin, je ne vois pas pourquoi c'était un montant inférieur. Location jour de semaine, particulier et entreprise de la commune, 275 euros. Particulier extérieur de la commune, 680 euros. Association et entreprise extérieure, 850 euros. Donc là, de la même façon, on a fait évoluer. Association communale, première location le week-end ou un jour de semaine gratuit. Deuxième location, jour de semaine, 280 euros. Deuxième location et suivante le week-end, 550 euros. Caution, 500 euros. Ménage, 65 euros. Salle de la ferme du château, particulier et entreprise de la commune, 240 euros. Particulier extérieur à la commune, 630 euros. Association et entreprise extérieure, 630 euros. Particulier, location jour de semaine, particulier et entreprise de la commune, 120 euros. Particulier extérieur à la commune, 340 euros. Association et entreprise extérieure, 340 euros. Association communale, première location le week-end ou un jour en semaine gratuit. Deuxième location jour de semaine, 150 euros. Deuxième location et suivante le week-end, 250 euros. Caution, 200 euros. Ménage, 50 euros. Salle des expositions, association de la commune gratuit. Association entreprise extérieure, 350 euros. Association et entreprise extérieure, en location jour de semaine, 100 euros. Ménage, 40 euros. Salle des associations, association communale gratuit, ménage en option, 40 euros.
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Bon, donc les tarifs de location des salles municipales pour 2015 sont adoptés aux tarifs qui viennent d'être indiqués par Patrick Stéphane, adjoint aux finances. Point suivant, bibliothèque. En fait, pour la bibliothèque, il y avait quelque chose qui était déjà en cours. C'est la signature d'une convention avec le Conseil général de l'Oise. Et au passage, l'établissement d'un règlement intérieur. Donc je vais laisser la parole à Odile Arnoux, adjointe à la culture et à l'animation.
Donc la bibliothèque municipale va adhérer à la MDO au travers de la convention qui doit être signée. Pour cela, il fallait revoir le projet du règlement intérieur. Donc vous avez eu le règlement intérieur avec vos documents, mais depuis, il y a des petites choses qui ont évolué. Je vais vous les citer parce que nous avons eu rendez-vous hier avec la MDO, représentée par sa directrice et son sous-directeur. Donc, dans la première phrase, le changement, c'est elle contribue non pas à la lecture, mais à la culture, aux loisirs et à la recherche documentaire. Ensuite, dans le paragraphe 1, 2 et 3, tout reste en l'état. Dans le paragraphe 4, au niveau des prêts, on a augmenté le nombre de prêts possibles. Et ce ne sera pas forcément que des livres, ce sera aussi des documents, parce qu'il y aura à l'avenir possibilité d'emprunter des documents audio ou des documents type jeu vidéo. Donc, dans la première phrase, ce sera « Chaque lecteur pourra emprunter 6 documents à la fois. » Le nombre de 4 est en plus passé à 6. L'idée, c'est que d'amener la culture,
et amener la culture chez notamment nos adolescents. Au travers des livres, c'est difficile. On voit qu'arrivé à l'adolescence, les adolescents ne fréquentent plus la bibliothèque. Donc, amener des éléments beaucoup plus contemporains pour amener les jeunes adolescents à la bibliothèque et au travers ça, peu à peu, leur proposer des éléments, des documents de lecture. Ensuite, dans le chapitre 5, les recommandations... dans le troisième paragraphe, on a donc les lecteurs sont tenus de respecter le calme à l'intérieur de la bibliothèque, interdit de fumer, manger, boire dans les locaux, sauf animation expressément autorisée par la municipalité. Donc nous avons changé le terme pour écrire autorisé. Et pour le reste, c'est identique au texte que vous avez.
Alors, on va peut-être déjà procéder à ce niveau-là, à l'adoption du règlement intérieur.
Bien évidemment, ce règlement intérieur a été rédigé avec les personnes bénévoles, l'équipe bénévole. Elles sont 8 dames à travailler bénévolement à la bibliothèque et avec l'adjointe du patrimoine qui est Marie-Françoise Ducrot et qui est bibliothécaire en formation.
Voilà, donc voilà, je vous propose de voter pour ce règlement intérieur. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le règlement intérieur de la bibliothèque est adopté. Bon, il en fallait absolument un. Hein. La convention en fait avec le Conseil général nous impose d'avoir un règlement intérieur. Et bon, c'est normal de toute façon d'avoir un règlement intérieur dans une bibliothèque. Avant d'aborder le point suivant, convention, je vais demander une autorisation à l'ensemble du Conseil général, parce qu'en fait, du Conseil municipal, pas encore, jamais d'ailleurs. Donc, du Conseil municipal, c'est d'ajouter un point mineur à l'ordre du jour, parce qu'à l'ordre du jour, nous avions mis la convention, en fait, avec le Conseil général. Et on y a rajouté, justement après la réunion avec la MDO, un avenant, qui est l'avenant qui concerne l'informatisation de la bibliothèque, qui nous permet, entre autres, de bénéficier d'un ordinateur gratuitement, et d'un certain nombre de logiciels, et même d'aide à l'installation. Bon, tout ça gratuit, des prestations offertes à titre gracieux par le Conseil général. Donc je vous demande l'autorisation d'ajouter le vote de cet avenant à la convention à l'ordre du jour du Conseil municipal. Donc qui est contre? Je crois que tout le monde l'a en main, hein, cet avenant. Qui s'abstient? Donc nous voterons également pour cet avenant. Et je rends la parole à Odile Arnoux sur la convention. Donc Odile Arnoux.
Alors, la convention, elle a été distribuée.
Ah oui, tout le monde l'a eu. Hein.
Tout le monde a eu la convention. Bon, la convention, elle est en l'état, puisque la convention, elle est rédigée par le Conseil général au travers de la MDO, qui est la médiathèque départementale de l'Oise. Donc la convention, on va la signer en l'état. Là, on ne peut absolument pas y toucher. Et puis, de toute façon, il n'y a rien à dire. Quoi. La convention, elle est très bien comme ça. Alors, par contre, une fois que tout ça sera acté, le gros avantage, c'est qu'on pourra avoir une aide de la MDO déjà dans un premier temps pour une réflexion globale sur le bâtiment et les 50 mètres carrés que nous avons actuellement, l'existant actuel de la bibliothèque. Donc, nous pourrons avoir une aide au niveau de la... De l'évolution, du rangement, de la présentation, déjà dans un premier temps dans nos 50 mètres carrés. Alors avant que les travaux concernant notre projet bibliothèque-médiathèque soient engagés, on va déjà commencer dans un premier temps à une petite réorganisation comme ça en interne pour que dès la rentrée de septembre, ce soit un peu plus sympa d'accueil. Et ça, la MDO va nous prêter, entre guillemets, quelqu'un pour réfléchir sur tout ça.
Donc MDO, médiathèque de l'Oise.
Médiathèque départementale de l'Oise, voilà.
Oui. Oui. Donc c'est tout ce que tu voulais en dire.
Oui,
je crois que chacun l'a eu, c'est une convention assez...
Vous avez des questions particulières ou des idées particulières à émettre sur ce sujet? Comment?
Attendez, on n'a pas la convention magique là, non, j'ai pas la convention.
Elle a été envoyée avec la note de synthèse. Mais je peux vous la faire passer.
Hein.
Ah, ben si, si, je t'en remercie.
Oui. J'ai pas compris, Laurence.
Non, c'était pas pour la convention, c'était pour l'avenir.
Oui.
Douchette.
Ah oui,
alors. Ah, la douchette. La douchette, c'est la poignée
c'est
pour
scan.
Scanner
le code barre.
Les codes barres sur les livres.
Je pense que c'est ça.
Oui.
Il n'y a pas de douche là-bas.
Elle l'a pas eu.
Elle n'a pas appris.
Comment? Alors, non, en fait, c'est une dotation complément. Donc, on avait déjà une imprimante sur place. Bon, ils l'ont vue. Bon, voilà. Donc, on ne bénéficie pas de l'imprimante.
Et nous avons déjà la douchette également.
Donc, juste un point, la bibliothèque donc, travaillait déjà, avait un premier niveau déjà de travail avec la médiathèque départementale de l'Oise. Mais là, en fait, ils ont refondu complètement leur convention et donc ils ont demandé de signer cette convention. Au point de vue financier, il y a un budget d'acquisition qui est associé de 2000 euros, un peu plus de 2000 euros puisque c'est 50 centimes d'euros par habitant. Il faut savoir que ce budget était déjà prévu, ces 2000 euros étaient déjà prévus au budget primitif 2014. Donc il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Voilà.
Alors, pour ce qui est, une petite précision, pour ce qui est du prêt des livres, la bibliothèque de Verberie est propriétaire d'un certain nombre de livres et travaille beaucoup avec la MDO de Senlis pour avoir des nouveautés. Il n'est pas obligatoire d'acheter les livres dès qu'ils sortent. Il y a des emprunts qui sont faits directement à la MDO. Si vous avez besoin d'un livre et qu'il n'est pas sur place, vous pouvez le réserver. Les bibliothécaires font le nécessaire pour le trouver à la MDO, le rapporter à Verberie et le prêter aux personnes qui en ont fait la demande. Donc il y a vraiment un énorme échange avec un énorme travail avec la MDO. Et il y a également projet donc, de développer les services de la bibliothèque vers les personnes âgées, à travers la maison de retraite et à travers la résidence des personnes âgées. Et on étudie aussi le portage à domicile pour les personnes qui sont chez elles et qui sont isolées. Donc ça, il y aura un travail de partenariat avec Annie. Et puis, il y a un travail également avec la crèche et un autre travail avec les assistantes maternelles. Et actuellement, Marie-Françoise Ducrot se déplace dans les écoles primaires. L'idée est par la suite que ce soit l'inverse, que ce soit les écoles qui viennent à la bibliothèque. Mais ça, ce sera dans un deuxième temps parce que il faut le temps de l'organisation et on ne peut pas tout bouleverser comme ça du jour au lendemain.
Un point qui peut intéresser chacun d'entre nous dans l'informatisation. En fait, le Conseil général met en place la médiathèque départementale de l'Oise, met en place un kiosque presse. Et si vous êtes inscrit à la bibliothèque, il suffit d'aller s'inscrire à la bibliothèque, en plus c'est gratuit, on vous remettra, alors peut-être pas immédiatement, peut-être sous délai de 8 jours, mais des identifiants qui vous permettront depuis chez vous de consulter la presse qui sera dans ce kiosque, qui est une presse généraliste. Voilà, j'en sais pas plus, mais ça peut être intéressant pour tout le monde. Donc, et puis ça peut amener des personnes à s'inscrire à la bibliothèque, justement. Voilà, donc...
Il y aura également, dans cette optique-là également, possibilité de travailler les langues étrangères. Donc des méthodes d'apprentissage de langue qui seront offertes...
Accessibles,
au travers de ces services. Donc tout ça, ce sont des projets qui sont... c'est pas le long terme, c'est proche, mais bon, ça va s'installer quand même progressivement.
À la condition qu'on vote, bien sûr, les conventions qui y sont associées.
Qui sont ce soir présentées.
Donc, maintenant, je vous propose de passer à cette phase-là. Déjà, pour ce que j'appelle le cœur de la convention, la base de la convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, bon, je suis autorisé à signer la convention. Et pour l'avenant informatique, qui est contre? Qui s'abstient? Donc je serai également autorisé à signer l'avenant informatique.
Merci.
Sujet suivant, travaux de protection des habitations dans le cadre de débordement de la rivière Oise. Alors il y a déjà eu un certain nombre de choses qui ont été faites par le passé, hormis les digues de protection, les deux digues de protection que chacun peut voir au nord de Verberie. Le conseil municipal, d'ailleurs, par délibération du 9 décembre 2013, avait décidé la réalisation de travaux de pose d'un bâtard d'eau qui serait installé à hauteur du portail du terrain utilisé par le club nautique Camp. Ces travaux étaient destinés à protéger les habitations situées dans les rues de l'Oise et du Port, et ces travaux avaient été estimés à 18 835 euros. Je passe les centimes ici. Donc un dossier de demande de subvention avait été réalisé auprès de l'entente Oise-N pour en fait une subvention de 20%, un taux de 20%. Alors en fait, l'entente Oise-N a repris contact avec la commune pour lui expliquer que le dispositif de lutte contre les inondations sur Verberie, dans son globalité, doit comprendre une digue au nord, donc ce sont les digues dont je viens de parler, qui ont été réalisées en 2008, un mur parallèle à l'Oise le long du club nautique, qui existe aujourd'hui avec ses jambes de force, également réalisé, et un raccordement sur le remblai d'accès au pont franchissant l'Oise, qui lui reste à réaliser. En clair, un mur de 140 mètres de long, avec probablement des jambes de force, de la même façon, c'est ça, et de 1,20 m de haut.
Le bureau d'études techniques nous le validera.
Nous le validera, voilà. Enfin, bon, c'est l'ordre de grandeur. Hein. Donc, voilà, si la prise en compte du maintien de l'accès au club nautique nécessite la mise en place d'un bâtard d'eau, la protection totale ne peut être obtenue que par la prolongation d'une digue ou d'un muret vers le remblai d'accès au pont. La réglementation depuis 2008 a fortement évolué. Les ouvrages de protection sont dorénavant soumis à des études spécifiques, contrôles et certifications qui ne sont plus compatibles avec des remblais réalisés dans l'urgence. En clair, il faut non seulement il faut construire ces murs, mais il faut certifier l'ensemble qui comprend ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire digue, bâtard d'eau, le mur qui va le prolonger. Tout ça, ça a rendu nécessaire l'établissement de nouveaux devis pour les travaux complémentaires. Et aujourd'hui, le devis nous indique que le montant total hors taxe est de 58 302,85 euros qui se répartissent de la façon suivante. Un muret donc de 37 980 euros, un mur support du bâtard d'eau de 14 872 euros et un bâtard d'eau en aluminium de 5 450 euros. Ce qui fait au total pratiquement 70 000 euros, toutes taxes comprises, 69 963 euros. Alors, la certification de ces digues, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important sur le plan réglementaire, parce que tant que les digues ne sont pas certifiées, évidemment, pour être certifiées, elles doivent être complètes, subir une étude de danger, qui sera à faire une fois que tous les travaux ont été faits. Tant que cette digue n'est pas certifiée, au titre de la réglementation et des évolutions, on va notamment revoir tout ce qui est plan de prévention des risques inondations, qui va être réactualisé, eh bien, toutes ces digues-là n'existent pas tant qu'elles ne sont pas certifiées. Voilà, ce qui nous montre l'importance d'exécuter ces travaux. Voilà, je propose donc à l'Assemblée d'approuver le projet de travaux de création d'un bâtard d'eau et de construction d'un mur, au tarif indiqué, de solliciter une participation financière de l'entente Oisen pour la réalisation de ces travaux, donc à hauteur de 20%, de solliciter une dérogation afin de pouvoir exécuter ces travaux avant l'accord de subvention et de prélever le montant de la dépense sur un crédit suffisant inscrit à l'article 23.15 du budget du précédent exercice. Voilà. Oui.
Le mur, 140 mètres de long.
Oui.
Il va y avoir de la terre qui va revenir dessus.
Non.
Ce sera un mort.
Les jambes de force,
j'entends.
Voilà.
Il va y avoir de la terre, parce que bon, un mur de 140 mètres sur 1,20 m, c'est quand même pas effectivement. Normalement, il est prévu sur ce type de digue de refaire un merlon de terre pour engazonner pour que si vous voulez, que ce soit plus esthétique.
Je comprends l'aspect esthétique. Hein.
D'autre part, le premier mur qui a été effectué avec les jambes de force ont été effectués par les employés communaux.
Oui.
Et ça a coûté peu, puisque ce sont les employés qui l'ont fait, et ensuite il a été validé comme étant résistant par Veritas ou Topotec, je ne sais plus à l'époque, hein, au niveau de la résistance. Alors, je pose la question maintenant, est-ce qu'il y aurait toujours la possibilité de le faire par les employés communaux qui savent très bien faire ce point, puisqu'ils ont déjà fait la première partie, ou bien est-ce que les employés ont une charge de travail trop importante aujourd'hui pour le faire par une entreprise, mais à ce moment-là, ce sera beaucoup plus coûteux. Voilà ma question.
Alors effectivement, d'une part, les employés communaux ont une charge de travail qui est relativement importante, hein, aujourd'hui. Le mur, en plus, un mur de 140 mètres de long à construire, ça va prendre quand même beaucoup de temps. Quel ordre de grandeur on peut donner en termes de construction, de délai de construction?
En fait, en régie, par exemple, les municipaux, on partirait sur aux alentours d'un mois,
ouais.
Plus ou moins, plus avec les aléas climatiques. Une entreprise peut assurer la prestation en 2 semaines et demie.
Donc,
on n'a que 2 maçons à la commune, juste pour rappel, alors qu'une entreprise serait tout à fait capable de mettre plus de personnel sur ce type d'ouvrage.
Donc ça, c'est... Oui, ça c'est le premier point. Le second point, c'est qu'aujourd'hui, là aussi, pour obtenir la certification du mur, dans la discussion qu'on a eue avec l'entente Oisen, ils insistaient beaucoup, effectivement, pour avoir employé une entreprise qui fait ça en permanence, qui est professionnel de la maçonnerie et qui, quelque part, est habilité pour obtenir les certifications. Oui, allez-y.
C'est-à-dire que l'entente Oisen, par rapport aux travaux qui s'étaient faits à l'époque, maintenant demande une phase d'étude faite par un DET donc reconnu avant de valider les travaux. C'est-à-dire qu'à l'époque, M. Foury, je pense que les travaux avaient été faits par les employés et validé ensuite par un bureau de contrôle. Alors que là, elle demande déjà une pré-étude par un bureau d'études, de façon à être certaine que lorsqu'elle valide ces travaux, ils correspondent tout à fait aux attentes pour la certification.
Oui, mais l'entreprise sera obligée de le faire également.
L'entreprise, tout à fait.
L'entreprise est obligée de...
Dans le marché qui est... Pardon. dans le marché qui a été monté, il y a eu une demande d'études préalables.
Voilà, c'est les deux arguments en fait qui expliquent qu'on soit allé dans cette direction. Voilà. Bien. Non, c'est... Oui, si vous pouvez parler plus fort que tout le monde entende.
On disait qu'à partir du moment où c'est une société spécialisée, c'est le coup de massue.
Partout.
Et on parlait comme pour les bâtiments de France. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant.
Mais oui.
Les travaux faits par les entreprises spécialisées qui interviennent sur les églises sont deux fois plus chers que les autres. Pour le même résultat. Il faut passer par les fourches codines de ces entreprises.
Ben oui.
Et c'est pour ça que ça a un côté un peu désagréable.
C'est clair. Mais aujourd'hui, vous voyez, il faut le faire certifier après. On vous dit, pour le certifier...
C'est-à-dire qu'on peut faire une demande de dépose de dossier pour avant le travaux. On est obligé de le faire pour se certifier. Maintenant, après, effectivement, ça fait aussi le temps et un problème financier pur. Est-ce que on peut le faire? Est-ce qu'on a le temps de le faire? L'entente voisine veut que ce soit réalisé sur cette année absolument par rapport à ces subventions, ou est-ce que il y a un peu de temps? C'est quelqu'un qui est trop cher.
Au niveau de la certification, on est poussé à aller dans ce sens-là. Voilà, donc qui vote contre? Qui s'abstient? Voilà. Alors, 4 abstentions, c'est ça? 5? 7. Voilà. Donc, qui vote pour? Donc, avec les pouvoirs. Il y a donc 20 personnes qui votent pour.
Non, mais M. Fleury, je pense que l'idée, elle était bonne, mais on a tellement de travaux à faire que là, on a un choix. On passe par cette entreprise. On a beaucoup de travaux à faire en annexe. Donc, si on bloque, votre idée était excellente, mais on ne peut pas, en ce moment, on a beaucoup de choses à faire, donc on est obligé de faire un choix. Nous, on fait l'entreprise, on fait. Si les employés municipaux font ça, ils ne vont pas faire le travail. Donc là, ils vont décider.
Non, mais si les finances le permettent.
Les finances ne le permettent pas.
Mais il faut le faire.
Là, on est obligé de faire des choses, il faut s'engager. Moi aussi, je suis pour faire des économies.
Oui.
On est tous là pour faire de l'économie.
Oui.
Parce qu'on n'a pas le choix, il n'y a pas d'argent.
Bien, je vous propose de passer au point suivant de l'ordre du jour. Donc, concours des maisons fleuries, des maisons et balcons fleuris, règlement. Donc, je cède la parole à Odile Arnoux, adjointe à la culture et à l'animation.
Vous avez tous eu le règlement. Voilà. Donc on a retravaillé le règlement en commission culture et animation. Donc on a décidé au cours de cette commission de reprendre le concours. On a modifié un petit peu le règlement par rapport à l'année dernière, mais finalement pas beaucoup parce qu'il était plutôt bien rédigé. Il y a eu quelques petits aménagements, mais pas grand-chose.
L'idée, c'était de repartir vers le concours pour mettre de l'animation et faire en sorte que les personnes en fleurissant devant chez elles, ça donne envie aussi de respecter l'environnement public. Donc, au niveau des, là où les choses se sont un peu modifiées, c'est au niveau du jury. Va participer au jury cette fois le conseiller général, puisque c'est une personne extérieure de Verberie et c'est bien d'avoir quelqu'un d'extérieur de Verberie. Sinon, le nombre de jury, ben, c'est toujours 9 personnes. Le conseiller général, 5 membres du conseil municipal, et puis une personne des employés communaux. Ça fait 5.
Les fleuristes.
Et puis les deux fleuristes, voilà, je cherchais les deux fleuristes de la ville. Le passage se fera la première. C'est pas la première quinzaine de juillet, il y a une petite modification. C'est la dernière semaine de juin et ou la première semaine de juillet. La date n'est pas encore fixée, elle sera fixée au dernier moment en fonction du temps. Et puis le deuxième passage se fera effectivement la première quinzaine de septembre. Alors au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas encore énormément de personnes qui se sont inscrites, mais on attendait que le règlement soit validé en conseil municipal pour lancer véritablement l'information, la publicité. Si vous avez des questions particulières sur le règlement ou des choses à ajouter.
Bon, donc qui
L'article 5.
Oui, tu changeais.
Oui, c'est ça. C'est la dernière semaine de juin et la première semaine de juillet, en fonction du temps. Excusez-moi.
Toi, on ne donnera pas la date de passage.
Non, on ne donne pas la date de passage, bien évidemment. Voilà. Elle sera gardée secrète par le jury.
Ça évitera de voir les fleurs se promener. Voilà. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Bon. Le règlement est adopté à l'unanimité. Point suivant de l'ordre du jour. Donc, je propose d'inverser les deux derniers points et de traiter en premier la convention avec le Conseil général relative à la restauration scolaire et l'annexe redevance incitative ordures ménagères. Donc, nous avons donc les enfants ou une partie des enfants des écoles primaires de la commune qui déjeunent au sein du service de restauration du collège d'Aramont, et nous avons une convention qui lie la commune au conseil général de l'Oise, gestionnaire du collège, qui est autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 26 février 2013. Donc le collège demande à la commune de prendre en charge 20% de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères. Les enfants de primaire de nos écoles produisent évidemment quand ils mangent des déchets, tout comme les enfants du collège. Ça n'avait pas été pris en compte dans la convention initiale, d'où la demande du collège qui nous a paru assez légitime. Il y avait d'ailleurs eu un accord de la municipalité de Verberie lors du conseil d'administration du collège du 2 décembre 2013, la question avait été posée par Madame Bard, et les représentants de la commune avaient accepté la proposition de la principale qui était celle-ci. Voilà. Donc, je propose donc à l'Assemblée de prendre en charge 20% du montant de la redevance incitative due par le collège. Pourquoi 20%? Parce que c'est simplement le pourcentage des enfants des écoles primaires qui mangent sur le nombre de personnes qui prennent leur déjeuner au collège de Verberie. Donc prendre en charge 20% du montant de la redevance incitative due par le collège sur la base des effectifs actuels, c'est-à-dire nombre de rationnaires des écoles primaires sur le nombre total d'enfants mangeant au collège, et sous réserve que le collège effectue le tri sélectif des déchets, et ce qu'il fait. Revoir le pourcentage, ça c'est le deuxième point, de prise en charge si le nombre de rationnaires évolue sensiblement. Et puis, m'autoriser à signer l'annexe de convention à venir avec le Conseil général de l'Oise. Le coût pour l'année 2013 est de 1586 euros. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Bon, à l'unanimité, donc nous prendrons en charge cette partie de la redevance incitative due par le collège. Et je signerai l'annexe à la convention. Voilà. Dernier point, donc, la liaison RN2, RN31. On fait, le Conseil général a organisé le 18 février 2013 une présentation de ce projet et des études qui ont été faites à ce moment-là, dans laquelle il propose notamment sur Verberie plusieurs itinéraires possibles, plusieurs tracés possibles. Et il avait, le Conseil général, la direction des routes, avait demandé à la fin de la réunion de recueillir l'avis des communes à l'époque avant le 15 avril. Et elle a reporté, en fait, cette demande au 15 juin. D'où la discussion que nous allons avoir. Alors, encore une fois, il ne s'agira pas d'une délibération, puisque ce qu'on va démettre, c'est un avis. C'est simplement un avis parmi des tas d'autres avis qui ont été émis, ou qui restent à émettre avant le 15 juin, que ce soit des communes, des communautés de communes, ou encore d'autres organismes, je pense à l'Entente Oisenne, mais il y en a sans doute bien d'autres. Voilà. Et au final, de toute façon, tout ça ne reste que des avis, et les décisions qui seront prises sont prises par le Conseil général pour la construction, pour la poursuite de ce projet. Voilà. Donc, simplement, on va vous afficher, si ça veut bien s'afficher. Voilà, l'informatique m'a pas tout à fait trahi. Voilà, donc nous déjà on va s'intéresser. Oui, je. Voilà, tout le monde arrive à voir là. Donc j'ai deux planches à projeter. Hein. Voilà, il y a les planches papier qui vont passer pour ceux qui préfèrent voir de près sur les planches papier. Donc déjà pour moi. L'avis qu'on va émettre est un avis qui concerne le territoire de Verberie. Je me suis localisé sur ce territoire. Et il y a différentes hypothèses. Donc, ce que je propose, c'est de procéder en plusieurs étapes dans cette discussion. D'abord, exclure tout ce qui pourrait être écarté d'un avis global. Et ensuite, avoir une discussion sur un certain nombre de propositions qui resteraient, un débat suivi d'un vote qui encore est un vote qui n'est pas pour une délibération mais qui est un vote simplement pour recueillir un avis et pour m'éclairer dans l'avis que j'émettrai vis-à-vis du Conseil du Conseil général. Voilà. Donc, dans ce qui est... on voit ici qu'il y a plusieurs tracés. Alors, on a une combinaison de tracés, mais en gros, on peut découper ça en deux. Il y a d'une part la partie ouest de la D932A, qui se situe donc ici, où on voit qu'il y a en gros trois tracés possibles, A1, A2, A3. Ensuite, il y a la partie est, avec un tracé B4, un tracé B3, un tracé B2 et un tracé B1 que vous ne voyez pas mais que je vais vous montrer sur... Enfin, vous le voyez là, c'est en fait le tracé qui est en rouge hein, au départ. Le tracé B2, en fait, on a tendance à les confondre, mais le tracé B2, il est en vert, il fait ça et il se dirige tout droit vers Saint-Yme. Tandis que le tracé B1, il est en rouge, d'abord en pointillé parce que c'est la partie finalement de la route qui est déjà existante. Ensuite, il devient en très plein et il se poursuit le long des rails. Donc, je vous le montre sur... Non, je rouvre le même. Voilà, hein, vous avez donc B1 là que vous voyez. Voilà, vous avez qui continue jusque... Saint-Sauveur, après, en suivant les rails, hein, et qui part, en fait, du rond-point, que je baptise rond-point Pauquelin, qui se trouve ici. Alors, on pourrait déjà s'intéresser à la partie qui est à l'est, c'est-à-dire la partie en B, là, les B1, B2, B3, B4. Et dans les B1, B2, B3, B4, ce que je vous propose, je vous donne mon sentiment, je vous dirai si vous l'approuvez ou pas globalement, c'est que bon, B1 est un itinéraire qui convient. B2 semble un peu bizarre, même si on reste sur Verberie, il replonge sur Saint-Yne, selon une logique que moi je ne comprends pas trop. Donc je vous propose d'exclure ce B2, mais il faut que ce soit un avis partagé par tous. Le B3... Pour moi, il n'est pas intéressant parce qu'il coupe Verberie en deux. Il y a d'une part le cœur de la ville qui est ici, mais il y a tout le quartier de la gare qui serait coupé par le B3. Et le B4, c'est la même chose. Donc moi, mon sentiment aujourd'hui sur la partie est, c'est qu'en fait, il reste, à mon avis, qu'une possibilité qui est intéressante pour nous, c'est le B1. Voilà, je voulais savoir si ça faisait déjà l'unanimité et si on peut partir sur cette base-là. Oui, le silence signifie que...
Évidemment, bon, moi aussi je suis d'accord sur le B1. Le A2 ou le A3 ou le B3 avait l'avantage de rejoindre le port de Longueuil-Sainte-Marie au niveau développement économique. Mais bon, qu'il fasse le tour pour revenir, il y aura quelques kilomètres plus. Et ça, le B1 moi aussi me paraît plus judicieux, puisque de l'autre côté, on a l'automne avec tous les problèmes d'inondation hein, et toutes ces zones humides qui sont autour de l'automne. Et effectivement, le B1 paraît plus judicieux, même si le B3 raccordait plus directement à la zone de Montgaz. Et d'autre part, ça pose un problème sur Saint-Sauveur, l'autre, en allant se rejoindre de l'autre côté, c'est qu'on ne désenclave pas Saint-Sauveur.
Mais alors là, moi, là, je vous suis pas. Ici, pour moi, on s'exprime sur Verberie. Donc,
Mais on ne peut pas ignorer les autres. Hein.
Oui, mais bon, Saint-Sauveur, c'est Saint-Sauveur. Je pense qu'ils vont s'exprimer, d'ailleurs. Voilà, donc pour l'instant, on s'est intéressé. Moi, j'ai mentionné que les B, là, hein. Donc, je n'ai pas parlé des A2, A3, A1, on va en parler maintenant. Je vais peut-être reprojeter l'autre diapo, puisqu'elle montrait plus particulièrement cette partie-là. Alors, je vais essayer de ne pas me planter. C'est pas gagné. Si, c'est bon, ça ?
Non, c'est la même.
Non, c'est la même. À chaque fois, je le fais, celle-là. OK, affichage.
C'est la bonne.
Plein écran. Voilà. Donc là, on voit la partie ouest de la D932A. Et là, il y a A1, A2, A3. Pour moi, la A3 qui vient longer les maisons de Verberie, ici, est difficilement acceptable. Donc moi, je proposais de l'exclure. Je voulais savoir si tout le monde avait ce sentiment autour de la table. Ensuite, il reste donc A2 et A1. Et en fait, je propose d'avoir une discussion sur l'itinéraire qui serait A2, B1, B1. Donc A2, B1, A2 se fait, on ne le voit pas très bien là, hein, mais A2 en fait fait ceci. Et remonte, réutilise une partie de la D932A, le contournement, et remonte jusqu'ici. A2, c'est ça. Hein.
On remonte au rond-point de Beauclin.
Alors il arrive, il part de l'intersection de la route qui va vers Longueuil-Sainte-Marie et Chevrières. Il traverse l'Oise un peu après le barrage. Ensuite, il longe quelque part l'Automne, qu'il prend à main courante, et il arrive au pied de Francem. Voilà. Et ensuite, il remonte, selon la route existante, jusqu'au rond-point Beauclin. Et ensuite, vous avez le 1, bon, qui lui se voit comme le nez au milieu de la figure, me trompe de, voilà, qui part de la D200 et qui arrive directement au rond-point Beauclin. Voilà. Voilà. Donc, je propose d'ouvrir le débat quelque part sur ces deux itinéraires, A2 B1 ou A1 B1. Oui, Monsieur Floury.
Il était récemment. Décide de rajouter au niveau du conseil général un itinéraire A4 qui serait le long de la voie ferrée. Vous voyez la voie ferrée, c'est-à-dire qu'on longe la voie ferrée pour rejoindre au lieu d'elle qui est parallèle mais qui ne coupe pas les étangs et qui a l'avantage de n'avoir qu'un merlon puisqu'on est le long, ça ne fait pas une deuxième digue. Puisque là, de toute façon, on est obligé de laisser passer l'eau en dessous les ouvrages, et ça permet de ne faire qu'avec une seule digue, avec la voie ferrée, et de ne pas couper les étangs. C'est une proposition A4 qui a été faite au niveau du pays compiénois, qui a un coût plus important, il est évident, au niveau des raccords par rapport au CD200, parce qu'il y a la voie ferrée, et avec les échangeurs, mais qui a le mérite de n'avoir qu'un seul merlon et de ne pas de laisser les étangs en pleine nature. Alors on reprend effectivement la tourbe et on revient au rond-point Beauclin.
Pas exactement, je
crois.
Comment on arrive au...
C'est le bouton du haut, hein. Il y a deux boutons, c'est le bouton du haut.
Le bouton
du haut.
Alors, oui, on part au rond-point Beauclin, là, et on remonte comme ça.
D'accord. Mais vous arrivez comment sur le rond-point?
Par là.
Non, mais là, c'est un pont, ça. C'est surélevé par rapport à la voie ferrée.
C'est-à-dire qu'on fait une jonction ici.
Sur le pont?
Non, en dessous. En dessous le pont.
Remonter sur le...
Pour arriver le long, c'est-à-dire que le merlon, il y a une surélévation là par rapport à la voie ferrée. Ça permet de ne couper au niveau de l'eau qu'une seule fois et ne pas avoir de nouveau, parce qu'on va avoir un barrage là, puisqu'il faut faire un pont. Donc il faut surélever et vous allez de nouveau... Alors il faut faire des connexions en dessous pour que l'eau puisse passer. Alors que là, vous n'avez plus à en faire puisque ça existe déjà. L'eau est déjà barrée par la SNCF. Donc c'est un avantage, c'est de ne pas détériorer aussi bien visuellement que la faune, la flore, toute cette partie qui est là.
Bien sûr.
Et la question, ça avait été abordé un peu le 18 février, donc je n'ai pas la réponse, c'est... À un moment donné, là, il faut passer au-dessus de la voie de chemin de fer et il faut donc faire la sortie de l'échangeur, là, qui sort, il faut le faire après le passage de la voie ferrée. Pour ça, il y a des courbes, ça va prendre un...
Alors là, il faut... Oui, il y a un ouvrage d'art qui est un peu plus compliqué que là. Hein. Alors, est-ce qu'il faut arriver là, partir un petit peu en travers? Là, je ne peux pas vous dire. Mais c'est une solution qui était...
qui est réalisable.
Oui, qui est réalisable et qui préservait plus l'identité du site.
Bien sûr.
Hein. Bon. Et c'est pour ça qu'on a fait cette proposition à 4 au niveau du pays compiénois. En donnant les raisons hein, et les avantages. Bon, maintenant, c'est le département qui choisit. Hein,
mais d'accord.
Mais ça a un avantage de ne pas couper, parce que là, on va être en surélévation et on va avoir commissé au pont du chemin de fer. De nouveau, ça va faire une digue. Hein. On va avoir une deuxième digue, là.
Que vont devenir les usines qui sont...
Ça va rattraper la route du pont, là.
Oui, d'accord, mais si tu dois raccorder la...
Là
non, 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 plus bas.
La
32. Sur la 32.
Quand
on arrive là, ici, là, il y a des usines.
Là,
il y a des...
Non, là, il n'y a rien, là.
Non, il
n'y
a rien.
Non, c'est devant.
Oui,
d'accord.
Oui, parce qu'il y a un chemin qui longe.
D'accord, non, mais je pensais que c'était...
Il y a un chemin qui longe là. Donc on peut passer le long là et reprendre là.
Il y a assez de place par rapport au kit étant de la Française.
Et cette information-là, vous l'avez quand? Depuis non, mais, quand, je vous dis
ça va toucher le...
Oh, je l'ai depuis 8 jours. 10 jours.
Ah bon.
Ça va toucher les temps de téléski, là, non plus?
Non, c'est sûr.
Non, ça ne touche pas les temps du téléski.
Parce que là, il n'y a pas beaucoup de place entre le téléski...
Oui, quand même, c'est pas une double voie. Hein, c'est une voie. Bon, après, ce sont les... Enfin, de toute façon, il faut que sur chaque... On a demandé aussi que ce soit précis, parce qu'aujourd'hui, c'est pas précis. Il n'y a pas d'études qui ont été effectuées. Alors après, puis il peut arriver d'autres problèmes techniques. Hein.
Là, c'est pas quelque chose qui a été demandé par le département, c'est le pays compiénois.
Le pays compiénois qui a proposé ce A4. Bon.
Et est-ce que le pays compiénois va faire une information auprès des communes concernées pour qu'il y ait justement comme un espèce de collectif?
On n'a pas de représentant au pays compiénois, nous aussi, autour de la table.
Si.
Oui, mais vous, mais nous, au niveau de notre équipe, on n'a pas de représentant, donc on n'a pas de dossier.
Je vais faire monter de l'information.
Mais
nous, on n'a pas de dossier.
Oui, ben pour l'instant, il n'y a pas eu de dossier, puisque c'est un courrier qui est en...
Ouais, mais oui, mais vous nous présentez la chose, mais nous, on n'a pas de dossier. On n'a pas...
Oui,
de...
Non, mais je suis d'accord, je vous présente la chose qui a été décidée il y a une semaine.
Bon, est-ce qu'on peut avoir un courrier du pays compiénois, justement, sur ce sujet-là?
Oui, je vous fais parvenir.
Très bien. Merci.
Il faudrait essayer de savoir avant la date limite si je sais passer là et pas mal.
C'est une demande qui a été faite, c'est pas pareil. Hein. Est-ce que ce sera retenu? Est-ce que ce ne sera pas retenu?
Alors,
je sais que par rapport à l'entente voisine, le tracé à 1 leur pose un peu de soucis.
Ouais,
alors, il ne leur plaît pas du tout. Bon. C'est pour ça que ça permet d'aller un peu.
Alors ensuite,
il est certain que si jamais il existe le A4 et que ça ne dérange pas les temps de travail du.
Moi je suis pas sûr parce que c'est très près. Hein.
Mais non, mais ça, ils peuvent pas aller dans les temps. Ils sont obligés de passer sur le côté. Et ça ne peut apporter aussi que...
Il faut...
Le risque d'impact, c'est paintball.
Non, c'est paintball.
Alors, juste en élément complémentaire, donc il y a ce A4 qui vient d'être proposé, bon, qui est intéressant. On avait quand même essayé de lister un peu les points positifs et les points négatifs des autres tracés. Donc le 1 présentait un accès plus direct à la zone d'activité, avec un raccordement effectivement sur la CD200 qui était aussi direct. Il entraînait peu de consommation de terres agricoles, puisque il coupe par contre son gros inconvénient, vu de Verberie, après il y a l'entente voisine qui intervient, c'est qu'on a quand même l'ambition de développer une zone touristique de loisirs dans cette zone qui est ici, là, et il coupait cette zone-là en deux. Donc, voilà, c'était... Ça, c'est, pour nous, c'était un vrai problème. Ensuite, il risquait... Enfin, on l'a mis, à la limite, c'est l'affaire de l'entente voisine, mais il ne faut pas oublier que les installations de l'entente voisine sont faites aussi pour nous protéger. Il risquait de perturber le fonctionnement du système d'écrétage des crues, bon, ou alors il faut faire des travaux pour, justement, ne pas avoir cette perturbation. Le A2, donc le A2 qu'on a regardé, il avait un avantage, évidemment, c'est de préserver la future zone touristique telle qu'on la voyait, hein, au niveau du téléski et de l'étang voisin. Il est plus proche de la ville de Verberie, donc moi je pense qu'il absorbera mieux le trafic routier intérieur à Verberie, qui pour nous est aussi un souci. Voilà. Par contre, il consomme des terres agricoles. C'est un tracé aussi qui menace une maison sur l'avenue René Firmin. Donc, en fait, quand on regarde de près, ici, on arrive au pied de la Francème, là, au jardin de monsieur. L'ex-jardin que cultivait monsieur Beauvois, pour ceux qui connaissent. On est au pied de la Francème et très vite on arrive sur une maison quand même qui est là. Bon, je suppose que même si c'est une deux voies, ça va quand même être une deux voies assez large. Bon, je ne me souviens plus des dimensions.
20 mètres de large.
Comment ?
20 mètres.
Elle fait 7 mètres de large.
Non, mais il faut une emprise de 20 mètres.
Voilà, c'est ça.
Ah, ben bah, hein, 20 mètres, les étangs, ça saute. Hein.
Ah, oui, carrément.
Alors, les 20 mètres au pied de le paintball et puis les étangs, ça saute.
Alors
pas.
Attendez, je n'ai pas terminé. Ensuite, il y avait un point ici, c'était d'avoir quelque part une sortie vers, si possible, vers Francem, parce que Francem est un peu difficile d'accès. Et puis ici, c'est une protection de la ville contre des nuisances sonores. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut demander. Après, les gens décideront, hein. Ça c'est clair. Voilà ce qu'on avait regardé pour le A2. Le A4, moi en complément, le souci c'est quand même
ici.
Mais il faut regarder sur une carte là, hein. Ouais. C'est pas assez précis. Parce que si on a l'espace du téléski qui est. Si l'étang est très proche, des camions vont passer à proximité. Il va y avoir, enfin, ça va perturber les activités. On peut regarder ce point-là. Mais il faut regarder vraiment sur une carte. Sinon, le A4 présente, c'est vrai, il présente des avantages.
Le A4 dans le centre de la voie ferrée, non ? De l'autre côté de la voie ferrée.
Bah, le quartier de la gare.
Derrière quoi, cet endroit-là, il y a des habitations, il y a des choses.
Bah, le quartier de la gare.
Il faut passer la voie ferrée.
Le quartier de la gare.
Ils peuvent faire le rond-point en haut avant, pas un problème.
Où ?
En haut, tout en haut à la RD200.
Ah, ici ?
Bah, c'est là, puis après, repasser.
Et ici, il faut remonter sur la D930 dehors. À mon avis, c'est.
De toute façon, il faut remonter.
C'est compliqué. Bah non, parce que là, si j'ai bien compris ce que nous a dit M. Floury, c'est qu'on remonte pas.
En contrebas, là.
C'est qu'on remonte pas.
Vous avez un chemin en contrebas.
Hein. Les 20 mètres d'emprise, on les a pas. Là.
Non, mais il n'y a pas 20 mètres entre le.
Il y a un chemin qui longe là déjà.
Mais il ne fait pas 20 mètres le chemin.
Et qui remonte le long de la ligne de chemin de fer.
En tout cas, parce que clairement, là, on, avec le A4, on ne remonterait pas sur la D932A, on la longerait pour se retrouver au rond-point Poquelin.
Ouais.
Moi, le seul point, c'est ici. Quoi. C'est là, c'est un peu délicat.
À ce moment-là, il ne faut pas longer, il faut refaire quelque chose pour raccorder sur le.
Ici ?
Ouais, ça va coûter une fortune, mais.
Non, après,
non, non, c'est une question de coût après.
Comment ? Non, tu es loin de la gare.
Non, mais si tu vas tout droit.
Je ne peux pas raccorder.
Non, tu
on arrive dans l'autre sens.
Non, ici, ça ne pose pas trop de problèmes. C'est là les problèmes.
C'est le problème.
là, ça, pour descendre, ça va. C'est pour remonter, pour redescendre, ça ne pose pas de soucis pour faire un raccord. Mais en revenant de l'autre côté, c'est là où il y a... C'est pour ça qu'il faut garder la double voie le long de la route. Mais il est vrai que là, c'est assez proche de la route. Et ça ne nuit pas à l'activité.
Non. Notre activité touristique, là, elle est morte.
De toute façon, c'est
le
côté général.
Nous qui va installer au pied du bateau, vont passer les voitures.
On l'a vu où les temps n'ont pas touché.
Auprès de sa baraque de golf et tout.
Les autres qui
n'ont
pas touché, c'est un intérêt. Maintenant, est-ce que c'est le côté général ?
Faut qu'on aille voir sur place.
On peut pas se prononcer. Et de toute façon, nous, on n'a aucun écran. Ce qui est en train de dire.
Non.
Là, le projet touristique,
elle est morte.
Oui.
Oui, tout à fait.
Nous, le A4, on n'en a aucune connaissance.
C'est la deuxième étude. La première étude avait été faite par un cabinet. Et c'était, il avait rencontré chaque maire, il avait rencontré chaque structure. Et là, la dernière étude qui a été faite, personne n'a jamais vu personne. Hein, ils ont fait leur
Alors. Mince.
Nous, on peut faire qu'entre 1 et A2. De toute façon,
on n'a pas ce projet.
Non, on peut faire qu'entre 1 et A2.
On fait pas partie du pays de Pompiers Noirs.
Attendez, je fiche. Écoutez, moi, ce que je propose là, c'est que moi, ce que je regrette, c'est que le pays Pompiers Noirs nous présente. Qui nous présente son affaire, enfin qu'il nous présente.
Mais attendez, c'était un réunion de bureau là, ça pourrait.
Bah oui.
Mais nous, on n'est pas au courant.
Donc, je vous propose pour l'instant de nous exprimer sur ce qu'on voit là. Et puis après, on pourra toujours prendre en compte l'avis et la proposition du pays Compiègneau. Mais dans l'immédiat, c'est de nous prononcer sur ce qu'on voit à l'écran qui a été proposé.
Non, on propose ce qu'on veut, hein, nous. Oui. Vous pouvez proposer ce que vous voulez.
Oui, oui. Mais là, je propose de partir effectivement sur les hypothèses qui sont proposées ici. Et là, après, de toute façon, le pays Pompiénois va sans doute pas faire sa proposition. Il n'y a pas de problème. On dira, et ça reviendra après dans la réflexion globale. Donc, moi, je vous propose de réfléchir, de nous prononcer là-dessus, et on enverra un avis là-dessus. Et ultérieurement, la proposition du pays compiénois mérite d'être prise en compte.
Si on doit donner un avis et puis que c'est pas retenu, ça ne sert pas à grand chose.
On ne sait pas ce qui sera retenu au final. Hein. C'est un avis. Hein,
Il n'a pas de valeur.
Enfin, si, il a une valeur relative. Tout ça va continuer. Il va y avoir d'autres réunions de toute façon. Hein. C'est pas un avis. Comment ?
Il y aura une enquête publique.
Et il y aura une enquête publique.
Au final, il y a une enquête publique.
Tout à fait.
Il faut savoir que ce sera réalisé que dans 8 ans.
Oui. Bon. Donc. Enfin, le Conseil général nous annonce en service en 2019. Je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Floury, c'est-à-dire que je n'ai jamais pensé que c'était une proposition réaliste. Bon, donc, 2019. Si dans leur papier, c'est marqué.
Oui, on a vu les bornes.
Vous avez vu les bornes.
Bon, toujours est-il que moi, je vous propose de vous prononcer sur A1, B1 ou A2, B1. Voilà. Et après, il y aura d'autres bons, il y aura d'autres réunions. De toute façon, l'histoire n'est pas terminée. Et je pense que la proposition A4 du pilier compiénois arrivera dans la discussion.
Alors, est-ce qu'on peut proposer une
A5 ? Comment ? Oui, oui.
On crée une A5.
Bien, donc moi je vous propose de voter. Sachant que c'est encore une fois un avis, hein, il n'y a pas de délibération derrière ça. Donc, quels sont ceux qui sont pour A1, B1 ? 1, B1, 1. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, B1. D'accord ? Quels sont ceux qui sont pour A2, B1 ? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le compte est bon. Et Cécile, tu as voté pour qui ?
Pour Marie.
Donc pour les deux.
Il y a un pouvoir.
Donc relevez la main ceux qui ont dit
A2,
B1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16
et 9 tensions.
D'accord.
Une abstention, Michel.
Qui s'abstient ? Une abstention.
Et Philippe ? Non ?
Philippe ne se prononce pas.
Deux abstentions, alors.
Il s'abstient.
Donc deux abstentions.
Deux abstentions. Très bien, et sachant que s'il y a la proposition du pays compiénois, d'ailleurs si vous pouvez nous faire parvenir le courrier, je vous en remercie.
C'est une proposition qui est faite au Conseil Général, hein. C'est pas comme nous, là, on crée des propositions.
Exactement, exactement.
Hein, c'est juste, c'est même pas une préconisation, hein.
Ah, oui.
C'est une quatrième proposition, avec ses inconvénients, ses avantages.
Voilà.
C'est pas en disant il faut passer là.
Non, mais je l'ai compris comme ça.
Comme la majorité ici au conseil municipal n'est pas représentée au pays compiénois, merci de nous faire suivre les informations au fur et à mesure. Voilà.
Et ça, on pourra en discuter quand si le A4 sort, on pourra en parler.
Oui. L'histoire ne s'arrête pas là, hein, croyez-moi. Hein. L'histoire ne s'arrête pas là.
J'ai le temps d'en voir passer les camions.
Non, c'est pas ça. Alors, questions diverses. Pardon, un peu de silence, s'il vous plaît. Questions diverses. Donc, il n'y a pas de questions diverses qui ont été posées. À titre d'information, par contre, j'ai plusieurs éléments à vous communiquer. Le stage musique en herbe. Donc, comme le stage musique en herbe s'est fait, n'est pas été autorisé, pardon, à utiliser le collège, en fait, qu'il utilisait les autres années, nous avons accepté de l'héberger à l'école maternelle et primaire des Remparts. Voilà. Donc, voilà, c'est le premier point. Ensuite, autre point, nous avions demandé une subvention pour un troisième radar pédagogique. Donc cette subvention a été, une subvention de 1200 euros a donc été accordée, sachant qu'on avait mis un prix d'achat, d'acquisition de ce radar de 2500 euros, tout ça étant en hors-taxe. Ça c'est la deuxième information. Troisième information, nous avons reçu le compte-rendu d'activité de la concession GRDF. Donc, tous ceux qui veulent la consulter, Elle est évidemment accessible. Ici, elle doit d'ailleurs pouvoir être accessible à tout citoyen. Voilà, à l'accueil. Voilà. Bah, vous avez un peu les consommations, la répartition, les longueurs de canalisation. Enfin, on l'a reçu il y a quelques jours et je dois encore le regarder en détail. Je ne vais pas regarder en détail. Mais ceux qui sont intéressés, voilà. Je ne vous fais pas de compte-rendu de lecture aujourd'hui. Voilà. Mais ceux qui sont intéressés peuvent le lire de A à Z. Voilà pour les informations à dispenser lors de ce conseil municipal. Je vais donc maintenant lever, si je n'ai rien oublié, la séance. Voilà, merci beaucoup. Oui, si les personnes qui sont présentes, si elles ont une question à poser.
Non, simplement pour féliciter Verberie en tant que sport, puisqu'il finit champion sur groupe.
Oui, alors oui, alors information, merci. Merci. Alors effectivement, l'équipe de football, hein, de football. Parce qu'il n'y a pas que des équipes de football à Verberie, il n'y a pas d'autres équipes.
Mais... Malheureusement, il n'y a plus de jeunes et ni équipe réserve.
Oui. Alors il y a un club. Bon, ils étaient descendus l'an dernier. Voilà. Donc cette année, effectivement, ils vont remonter. Et dans le dernier match, sur la ligne, ils ont doublé les autres personnes de leur, les autres équipes de leur poule. Voilà, donc ils retrouvent en fait le niveau d'il y a 2 ans pour l'équipe première. Effectivement, comme vous l'avez dit, il est dommage que l'équipe de réserve ait fait forfait général. Et par contre, ils essaient de faire un effort vers les jeunes et il faut qu'ils continuent dans ce sens-là. Voilà, merci Monsieur Stéphane. Et il y a les enfants du CP en classe de mère. Les deux CP, de l'école des remparts et de l'école du centre. Comment ? C'est à côté de C'est la plage.
Il y a théâtre vendredi.
Et pour ceux qui sont intéressés, il y a théâtre vendredi, le collège Monsieur Décoré. Il y a une séance de théâtre le vendredi 13.
20h45.
Voilà, enfin le conseil municipal est clos. Mais on...